Grand Angle.
Bienvenue dans Grand Angle, avec vous pour ce nouvel épisode, Nadia Bencher. Face à la montée des radicalismes, à la fragmentation des autorités religieuses et à l'influence croissante des réseaux sociaux, de nombreux États cherchent aujourd'hui les moyens de prévenir les dérives extrémistes. Un rapport publié par l'Institut d'études de géopolitique appliquée s'intéresse au modèle religieux marocain, présenté comme un instrument de régulation face aux dynamiques contemporaines de radicalisation. Mais qu'appelle-t-on exactement le modèle religieux marocain? Est-il réellement singulier et peut-il inspirer d'autres pays confrontés aux mêmes défis? Nous en parlons avec Youssef Chiheb, docteur en géographie humaine et professeur associé à l'Université Sorbonne Paris Nord. Il est également directeur de recherche au CNRS. Merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Youssef Chiheb, avant même d'entrer dans le contenu du rapport présenté récemment à la Maison de la Chimie, quand on parle du modèle religieux marocain, de quoi parle-t-on exactement ?
Eh bien, comme vous l'avez si bien dit en préliminaire, dans un monde où la complexification idéologique bat son plein, la complexité idéologique, politique, stratégique, géopolitique et donc religieuse aussi. Et l'islam n'échappe pas à ce déterminisme contemporain, à savoir sa complexité, sa fragmentation et sa pluralité, géographique ou doctrinale, mais celle du Maroc en revanche, l'islam du Maroc, ou l'islam au Maroc, constitue, j'allais dire, presque un cas d'école, un islam singulier qui n'a pas changé du hiatus depuis à peu près de 10 siècles, particulièrement de manière plus prononcée avec la dynastie alaouite actuelle, le rite malikite. Le rite malikite qui est la mouvance la plus modérée, la plus invertébrée, celle qui peut, par sa flexibilité doctrinale, s'adapter à tout temps et à tout espace. La preuve est que c'est le seul rite intrasunnisme qui s'est développé et s'est propagé géographiquement parlant en dehors de sa zone naturelle, c'est-à-dire au-delà du Maghreb, et s'est allé jusqu'au fin fond de l'Afrique de l'Ouest, voire même l'Afrique de l'Est du côté du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. C'est dire que cet islam, il est capable d'épouser les contours anthropologiques, ethniques, culturels, historiques des pays-là où il arrive. Deuxième point, cet islam, il a aussi cette singularité, l'islam du Maroc, c'est qu'il repose sur deux principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'islam du juste milieu, c'est-à-dire pas d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Pas trop de rigorisme, ni trop de laisser-aller. Deuxième point, c'est un islam qui est en capacité d'épouser son temps. J'insiste sur ce concept. Aujourd'hui, on parle sérieusement dans les milieux de législation au Maroc. On parle aujourd'hui d'adapter le texte au contexte, c'est-à-dire adapter le texte coranique, le texte prophétique au contexte. Bien sûr, à part quelques dérogations qui seront sanctuarisées, comme le mariage, le divorce, l'héritage, la filiation, mais en dehors de ça, tout ce qui régule la société, qu'il soit au niveau économique, au niveau environnemental, coopération internationale, il faut vivre son temps. Certes, on est en 1448, mais il faut qu'on soit en réalité calé à 2026, pour simplifier. Toute cette fulgurance de l'islam du Maroc, qui s'est aujourd'hui présentée au monde comme étant une alternative à un islam géopolitique apaisé qui peut progresser en Afrique, certes, mais surtout, et la nouveauté, c'est qu'il est transposable dans les rouages de la culture et de la civilisation occidentale européenne. Et c'est toute la réussite de l'islam du Maroc depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, qui a permis donc, par la création de l'Institut de formation des imams à Rabat, une première dans l'histoire du monde arabe où l'islam était une affaire patriarcale. Cet institut, en revanche, forme à la fois 150 imams par an sur le cursus théologique, religieux, mais aussi anthropologique, linguistique et juridique, mais aussi ce qu'on appelle en arabe al-moshirat, c'est-à-dire les conseillères religieuses, pour féminiser aussi celles ou ceux qui portent la parole de Dieu, pour ne pas faire de l'islam une affaire patriarcale et rester enfermé dans sa doctrine.
Alors, en fait, à la lecture de ce rapport, ce qui interpelle, c'est que les auteurs, justement, de ce document considèrent que le problème de la radicalisation dépasse largement la seule question terroriste. Alors, ils parlent d'une crise de l'autorité religieuse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement aujourd'hui ?
Disons que le problème que rencontre l'Occident en général, la France en particulier, c'est que deux choses. La première, c'est l'accélération du processus de la déchristianisation d'Europe et de la France en particulier. Donc il n'y a plus de socle religieux qui constitue à la fois un ciment anthropologique et politique pour la cohésion de la nation. Deuxièmement, l'interprétation excessive du concept de la laïcité, qui s'est avéré avec le temps devenu quelque chose comme anti-religieux et non pas séparation de l'État et de l'Église. Dans ce monde aussi où on ne sait pas faire les frontières, on a du mal à dessiner les frontières entre ce qui relève de l'excès de religiosité, ce qu'on appelle al-rolou en arabe, et de ce qui relève de la radicalisation, ce qu'on appelle at-tatarruf, et de ce qui relève du terrorisme, ce qu'on appelle al-irhab. Et certes, ils ont des dénominateurs communs, c'est le carburant idéologique du djihad, mais chacun a sa propre trajectoire, ses propres logiques, ses propres finalités, d'où cette confusion. Mais dans les pays, comme je reviens encore au Maroc, dans les pays qui savent faire la différence entre les choses, on a au Maroc tout le spectre de l'islam le plus radical au islam le plus quasiment laïque. La chose la plus importante, c'est le point de repère. C'est que la commanderie des croyants, c'est-à-dire que le pouvoir, le symbole du pouvoir politique, à sa tête, il y a une entité politique et religieuse légitime. Et je souligne le mot légitime en rouge. C'est-à-dire que personne ne remet en cause ces doubles légitimités politiques et religieuses de la plus haute autorité de l'État. De ce fait-là, par effet de pyramide, toute la base de la société marocaine sont d'accord sur deux choses. Ils peuvent être pas d'accord sur plusieurs choses, mais sur ces deux-là, ce sont les deux tenants et les aboutissants de système et de la stabilité du pays. Donc c'est normal que dans d'autres pays qui ont leur pouvoir politique contesté, y compris dans les démocraties, on voit bien ce qui se passe en France, on voit bien comment le mandat de M. Macron se termine. En même temps, il n'y a plus de religion, si ce n'est même une religiophobie qui s'installe en France, en particulier celle à l'égard de l'islam. Donc, que ça fragmente davantage la société, dans un contexte, bien entendu, géopolitique encore plus large, la guerre de l'Iran, Moyen-Orient, vous assemblez tout ça, les gens, ils ont peur. Peur de se projeter dans l'avenir parce qu'ils ont perdu cette double légitimité qui leur assure la sécurité, à savoir la stabilité politique et la légitimité religieuse.
Alors, cette question de l'autorité est d'autant plus importante que les modes de transmission du savoir religieux ont profondément changé. Internet, les réseaux sociaux, les prédicateurs en ligne ont-ils bouleversé les équilibres traditionnels dans l'ensemble du monde musulman ?
Bien sûr. On a commencé pas dans les années 90 par la découverte de quelque chose qui s'appelle les chaînes satellitaires, les plateaux de télévision qui dépendaient du bouquet de satellites, où le wahhabisme, le salafisme a pris sa part de ce nouveau mode de communication et de prosélytisme pour diffuser un islam corrosif, extrémiste, violent, etc. Mais ça s'est retourné contre la guerre du Golfe et le printemps arabe. Donc les conséquences immédiates de la numérisation et la digitalisation du prosélytisme a conduit à des révolutions, mais à des contre-révolutions, comme le cas en Tunisie, ou en Égypte, ou en Libye, ou autre. Maintenant, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a à la fois l'accès à l'échelle individuelle. Une personne se radicalise, elle n'a plus besoin d'un prédicateur ou d'un imam ou d'une mosquée. Il suffit qu'il rentre dans des sites bien particuliers pour trouver une matière communicationnel extrêmement corrosif et toxique de type celle qui préparait chez Daesh, ou alors maintenant avec l'intelligence artificielle on peut dire les choses et leur contraire, on peut faire présenter une personne qui est connue par ses positions modérées en trafiquant sa voix et en le faisant dire des choses qu'il n'a pas dites. Donc aujourd'hui on est dans une guerre réelle, c'est guerre de l'information. Où se trouve la vraie information, la mauvaise, celle qui a été manipulée, celle qui a été travaillée par l'intelligence artificielle, mais n'en demeure pas moins que les États, c'est peut-être pour être plus optimiste, les États qui continuent à reproduire un système d'une résilience telle comme le Maroc, c'est-à-dire l'incarnation de cette stabilité par de la présence humaine, par une personne, par un imam, par un ministère structuré, si on veut tuer les religions ou si on veut accélérer les processus de radicalisation violente, c'est quand on dématérialise ces symboles qui ont fait l'essence même de ces États. Donc le modèle marocain aujourd'hui, par quasi-unanimité, est un modèle exportable, standard, souple, transposable dans tous les pays, tels qu'ils soient, par ailleurs leur socle culturel d'origine.
Et justement, vous me tendez la perche, Youssef Chihub. Cette approche, vous l'avez dit, suscite un intérêt bien au-delà des frontières marocaines. Alors, pourquoi plusieurs pays africains, mais aussi européens, regardent-ils aujourd'hui avec attention cette expérience marocaine ?
Les pays européens et les pays africains, je dirais même, et ça va vous surprendre, le Canada, l'Amérique du Nord. Ces trois entités ont, d'abord, pour ce qui est de l'Europe et du Canada, il y a une très forte communauté marocaine, et je dirais plus largement arabe, et donc musulmane. Ils ont besoin d'anticiper, d'importer un modèle qui a fait sa résilience et ses preuves, qui est le modèle marocain, avant que ce soit trop tard, comme c'est le cas en France. On est arrivé à des violences urbaines, à des attentats, Bataclan, où on est allé trop loin. Donc, c'est une approche préventive et anticipative. Nous avons un modèle qui existe, qui a fait ses preuves, qui est reconnu internationalement. Pourquoi inventer l'eau tiède quand on peut s'y inspirer d'un modèle qui est juste à côté ? Pour le cas de l'Afrique, c'est autre chose. C'est la géopolitique qui s'installe. Et non pas la sécurité intérieure, mais la sécurité nationale des États, du Sahel, en particulier du Sahara, vu leur fragilité et vu leur incapacité à sécuriser leurs frontières et à affirmer leur état-nation, à donner un modèle économique alternatif aux populations. Donc, ils sont devenus donc la base arrière qui s'est déplacée du Moyen-Orient vers cet espace vacant en matière de sécurité, qui est donc Al-Qaïda et Daesh, et ils s'y sont installés. Donc, ces pays, ils ont compris aussi que ces mouvances radicales et djihadistes sont en train de formater la jeunesse africaine et sahélienne. Et s'ils n'ont pas un antidote, ou j'allais dire un antivirus, ce qui est le modèle marocain, ça risque de se propager et ça risque de faire chuter d'autres régimes par effet domino. Donc ces pays sont demandeurs, d'ailleurs la plupart des imams qui sont formés et des mourchidates qui sont formés au Maroc, direction Bamako, direction Niamey, direction l'Afrique en général, Sénégal, Côte d'Ivoire, ils savent que cette expertise acquise par les Marocains qui l'ont transmise donc à ces pays est en soi un cordon sanitaire pour protéger ces pays qui sont déjà affaiblis par d'autres facteurs économiques, géopolitiques ou géostratégiques.
Quand on dit modèle, il y a des bons côtés, mais ce modèle n'est pas exempt de limites. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels ce modèle est confronté ?
Alors, vous avez raison, c'est un modèle exportable, on peut faire tous les louanges, on peut faire tous les éloges qu'on veut. Néanmoins, il recèle quand même, comme vous le savez, l'islam est au pluriel au Maroc, c'est pas monolithique. Il y a aussi des mouvances, notamment celle du parti Al-Adala wal-Ihsan, qui est le salafisme radical. Il y a aussi quelques infiltrations dans le nord du Maroc, dans le Rif, que sont le chiisme d'Iran. Donc, il y a aussi des petites fissures de temps en temps qui apparaissent. Il y a aussi ce que le roi du Maroc a appelé le développement d'un Maroc à deux vitesses. C'est cette peur, moi à titre personnel, qui m'inquiète, c'est de ce développement à deux vitesses où il y a un Maroc prospère qui se développe, géographiquement parlant, c'est le littoral, les grandes métropoles. Et puis, il y a des zones d'ombre où il y a des pauvretés, où il y a la pauvreté, où il y a encore des problèmes de retard en matière d'alphabétisation, en matière d'inclusion de la femme dans la société économique et la société productive et éducative. Ce qui fait que ce sont des terreaux potentiels pour l'extrémisme en général, pour la radicalisation, bien que ce mot radicalisation ne peut pas être transposable dans le vocabulaire du Maroc. On n'appelle pas quelqu'un radicalisé. Le Maroc, il a une vision binaire. Vous êtes musulman tranquille ou vous êtes terroriste, pour simplifier. C'est-à-dire que vous êtes en lien avec une organisation ou vous ne l'êtes pas. Et à partir de là, il tranche. Mais quand même, il y a ce millefeuille intramouvance qui se développe au Maroc dans le silence, alimenté essentiellement et cycliquement par la pauvreté, par des événements de type génération de 212. Bref, il y a des petits moments, des secousses et des répliques qui viennent rappeler au Maroc que c'est très bien, que sur le plan politique et religieux, il est certes très stable, mais attention, il y a des poches de gaz qui peuvent ici ou là, à tout moment, exploser et qu'il faut donc peut-être continuer à faire mieux chez soi avant de faire mieux ailleurs.
Pour finir, Youssef Chiheb, le véritable défi des prochaines années n'est-il pas la capacité des États à rester audibles auprès des jeunes générations ?
Moi, je crois que vous avez tout résumé par cette question qui recèle en même temps la réponse. La légitimité des États repose d'abord sur l'audibilité du discours. Est-ce que le discours politique est audible ? Ensuite, est-ce qu'il est traduit par les faits ? Ou est-ce qu'il ne reste que de la simple communication ou la gestion de crise par la communication ? Les États sont de plus en plus en difficulté car l'accès à la connaissance s'est mondialisé par Internet, par l'intelligence artificielle. L'État n'a plus rien à montrer aux gens. Les gens ils savent ce que c'est que l'économie, ils savent ce que c'est que l'inflation, ils savent ce que c'est que le pétrole, et ce que c'est que la bourse. Donc les États aujourd'hui, les élites qui nous gouvernent en ce temps réel, sont en train de constituer les dernières générations de la version analogique des élites. Les élites analogiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été dans l'ère de l'informatique et du multimédia, sont en train toujours de gouverner, mais ils vont partir. En revanche, celles qui vont venir, qui sont nées avec cette nouvelle technologie, moi je m'inquiète pour est-ce qu'ils vont transférer ou déléguer à l'intelligence artificielle la gouvernance ou est-ce qu'ils vont continuer à la garder avec philosophie et avec responsabilité et sérieux. Les États seront de plus en plus confrontés à de la contestation populaire dans tous les États du monde. Et chacun pour des raisons différentes. Les uns pour des raisons économiques, culturelles, idéologiques, mais d'autres mouvements de contestation s'amplifient dans le monde, le wokisme aux États-Unis, ce qui se passe dans le monde arabe, ce qui se passe en Afrique actuellement. Bref, le monde est en ébullition parce que la connaissance s'est massifiée et parce qu'il y a aussi ce cancer qui se développe en même temps que l'intelligence artificielle, ce sont les fake news, qui peuvent produire ici ou là des catastrophes si les États n'ont pas cette capacité de réactivité rapide pour rectifier. Et enfin, l'État n'a plus le monopole de l'information légitime et l'information fiable, ou ce qu'on appelait avant officielle. Même l'officialité des informations sont aujourd'hui remises en cause. Donc les États aujourd'hui ne sont pas dans une bonne posture, d'autant plus que même les conditions économiques, écologiques, la pandémie du Covid, bref, l'humanité des 10-15 dernières années est passée par des traumatismes majeurs planétaires où les États sont remis en cause. Est-ce que l'État sert encore à quelque chose ? En gros, est-ce que les États sont encore dans leur place ? Ou est-ce qu'il faut penser à un autre modèle plus collégial différent en tout cas de celui que nous voulons aujourd'hui et qui vit probablement, particulièrement pour l'Occident, son déclin a commencé. Donc c'est d'où cette montée d'inquiétude.
Merci Youssef Chiheb d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie madame.
Je rappelle que vous êtes docteur en géographie humaine et professeur associé à l'Université Sorbonne Paris Nord. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS. C'est la fin de cet épisode de Grand Angle que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site et Spotify. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.